Il est 8h.
C'est bien de savoir qu'on est en sécurité quand on mange, qu'on n'a pas à s'inquiéter des autres car ils ne sont pas malades.
C'est sympa d'enfin sortir dîner, ça nous a tellement manqué.
Sentiment de sécurité et de liberté retrouvé grâce à un Corona Pass, le pass sanitaire à la danoise, une solution encore en construction en France, déjà en vigueur depuis 2 semaines à Copenhague. Nous y sommes avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Dans ce journal, les Républicains tentaient de monter une liste concurrente à celle de Renaud Muselier dans le Sud-Est. Quitte à tout perdre, les informations de Michael Darmon. Et puis, l'accompagnement modèle des salariés de l'usine Bridgestone à Béthune qui ferme aujourd'hui. Les indemnités et les offres de formation ont été à la hauteur. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est le début des grandes et petites manœuvres politiques. Après le coup de tonnerre en région PACA, les Républicains sont-ils en marche vers l'implosion? Mon invité Éric Ciotti, interview clarification à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Le pass sanitaire est-il un carcan ou un outil de liberté? Ce n'est pas une question de philo, mais celle très concrète et sur laquelle nous avons pu évoluer, alléchés par les perspectives du déconfinement. Il nous reste quelques semaines pour y réfléchir et préparer ce pass qui sera mis en place en juin. Un pays européen en est déjà équipé et il nous sert d'éclaireur ce matin, c'est le Danemark.
Johanna Chabas, vous êtes notre envoyée spéciale à Copenhague. Bonjour. Ce Corona Pass est en vigueur depuis le début du mois d'avril. À quoi sert-il ?
Eh bien, il est obligatoire pour entrer dans les restaurants, les bars, les musées, les stades, mais aussi pour se rendre chez le coiffeur, le tatoueur ou dans une auto-école. Sur leur téléphone ou sur papier, les Danois doivent montrer la preuve qu'ils sont vaccinés ou immunisés ou encore qu'ils ont été testés négatifs il y a moins de 72 heures.
Et alors, vous en avez profité, Johanna. Vous vous êtes rendue dans un restaurant muni de ce Corona Pass pour voir comment ça marche. On écoute votre reportage.
À l'entrée de chaque client, toujours la même question.
Can I have a Corona Pass?
Vous avez votre Corona Pass? Parfait.
Isabelle, la responsable, vérifie minutieusement chaque détail du pass avant d'enfin conduire le client à sa table.
Ça nous prend forcément plus de temps pour installer les gens. Bien sûr, il y a des files d'attente dehors, alors c'est un chouïa énervant, mais c'est gérable. Ça permet d'ouvrir, ça vaut le coup.
Dans la salle, les tables sont à un petit mètre d'écart. Les clients sans masque profitent de leur plat après 4 mois sans restaurant, même s'il a fallu obligatoirement réserver au moins une demi-heure à l'avance et se faire tester.
C'est bien de savoir qu'on est en sécurité quand on mange, qu'on n'a pas à s'inquiéter des autres car ils ne sont pas malades.
C'est génial. C'est sympa d'enfin sortir dîner. Ça nous a tellement manqué.
Elle est seulement déçue de ne pas pouvoir continuer la soirée dans un bar. Ici, tous les établissements doivent fermer à 23h.
Allez, encore un peu de patience. Pour nous, les terrasses des restaurants, c'est pour le 19 mai en France. Je reviens au Danemark. Johanna, précision importante, moins de 10% des Danois ont reçu 2 doses de vaccin. Le Corona Pass dépend donc énormément des tests.
Oui, le gouvernement danois conseille même à la population de se faire tester 2 fois par semaine. Trine Bodsgaard est la porte-parole de Copenhague Medical qui gère tous les centres de tests de la capitale. Elle a dû accélérer la cadence depuis le Corona Pass.
Avant ça, on se faisait tester si on pensait en avoir besoin. Mais maintenant que tout rouvre au Danemark, les gens en ont vraiment besoin. On a doublé le nombre de tests qu'on fait chaque jour et donc on crée de nouveaux centres. On en a un qui reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Résultat, on compte aujourd'hui 100 000 tests par jour dans la région de Copenhague. Et dans l'ensemble du pays, chaque jour, un habitant sur 10 est testé. C'est 5 fois plus qu'en France.
Est-ce qu'on peut dire que la population du Danemark accepte bien l'arrivée de ce Corona Pass ?
Oui, même s'il y a bien quelques opposants, on les appelle les Men in Black, hommes en noir. Ils défilent régulièrement dans la capitale contre toutes les restrictions sanitaires, mais ils sont vraiment minoritaires. Le pass est accepté par la plupart des Danois que j'ai rencontrés, que ce soit les clients ou les gérants d'entreprise. Kim Agren est directeur adjoint de la plus grande organisation patronale du Danemark.
On n'est pas habitué à montrer nos données personnelles, mais pour les Danois, c'est vraiment le moyen de rouvrir la société. Bien sûr, c'est une contrepartie, mais je pense qu'il faut se rendre compte des avantages pour vous et moi, mais aussi pour les entreprises.
Le Corona Pass est donc accepté pour l'instant, mais il y a un point sur lequel insiste tous les Danois que j'ai rencontrés, ils ne veulent pas qu'il soit en place trop longtemps. Le gouvernement s'est engagé à réévaluer le système cet été.
En direct sur Europe 1 depuis le Danemark, notre envoyé spécial à Copenhague pour ce dossier Corona Pass. Johanna Chabas, ce que ne dit pas votre reportage, c'est si vous avez pu déjeuner, dîner au restaurant ?
Ben oui, j'avoue que j'ai pas résisté à la tentation.
Qu'avez-vous commandé, si je puis être indiscret?
Alors, j'ai eu des noix de Saint-Jacques en entrée et du veau en plat principal.
C'est pour bientôt, je le dis, c'est pour bientôt, ça arrivera un jour en France. Merci Johanna Chabas, votre reportage, votre dossier à retrouver sur Europe1.fr.
Allez, chez nous en France, on regarde l'horizon s'élargir nettement. Aujourd'hui, il ne s'arrête plus à 10 km, fini les attestations en journée. En revanche, nos soirées restent provisoirement bouclées dès 19h. Eux retrouvent leur salle de classe aujourd'hui. Après un mois d'absence entre vacances et cours en ligne, les collégiens et les lycéens à nouveau face à leurs professeurs en demi-jauge dans les lycées et pour les classes de 4e, 3e des départements les plus touchés.
On fait le point avec vous, Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, est-ce que les professeurs ont reçu des directives précises du ministère pour insister sur tel ou tel point ?
Non, aucune consigne particulière du ministère. Après, c'est vrai que les situations et donc les objectifs de cette fin d'année sont très différents selon les niveaux. Au collège, la majeure partie de l'année s'est déroulée en présentiel, donc quasi normalement. C'est au lycée que c'est beaucoup plus compliqué. D'abord pour les secondes, qui pour certains subissent un enseignement à distance ou en demi-groupe depuis novembre. On voit des élèves qui n'ont même pas encore compris comment fonctionne le lycée, me confiait un professeur. Ensuite, pour les premières, il faut consolider les acquis, récupérer tous les élèves et les remettre dans une dynamique de travail. Enfin, concernant les terminales, il y a un objectif principal, le nouveau grand oral du bac à la fin de l'année. Même si un futur juré me disait « on ne cherchera pas à les piéger », on a conscience qu'ils subissent des conditions d'enseignement très particulières depuis plus d'un an.
Et est-ce qu'il y aura des conséquences sur l'année prochaine ?
Oui, car clairement, cette fin d'année ne permettra pas de rattraper tous les retards accumulés. C'est pour ça que les syndicats d'enseignants ont demandé que les programmes soient revus et allégés pour l'an prochain, afin d'intégrer le fait que l'enseignement a été chamboulé depuis plus d'un an. Le ministère a accepté et ces prochaines semaines vont donc se mettre en place des groupes de travail pour réfléchir dans chaque discipline à quel point précis peut être retiré des programmes pour laisser en fait un peu plus de temps au rattrapage de ce qui n'a pas pu être enseigné pendant ce Covid. En parallèle, le programme de révision du bac 2022 devrait lui aussi être allégé.
Toutes les précisions signées de Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. C'est une onde de choc chez LR, l'alliance entre le parti de droite et La République En Marche pour les élections régionales en PACA ou région sud, officialisée hier par Jean Castex dans le JDD. Conséquence directe, LR qui retire son investiture à Renaud Muselier.
Nous sommes avec le chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour, bonjour à tous.
Cette alliance part d'un constat pour La République En Marche, il fallait s'allier ou perdre.
Et oui, et puis on va dire les choses comme elles sont. Emmanuel Macron s'est rendu à l'évidence depuis des mois. La République En Marche n'est pas en mesure de gagner une région. C'est d'ailleurs pour cela qu'il aurait bien aimé qu'il réussisse à passer des accords avec des autres régions, notamment à gauche, comme le confie un macroniste. Au moins, on aurait pu atténuer la défaite. Alors, dans le Sud, il s'agit de repousser la menace du RN avec un Thierry Mariani, enfant du pays, et ex-LR. Et d'ailleurs, c'est ce que les sondages montrent jusqu'à présent. En cas de liste commune, la liste Muselier majorité présidentielle arriverait devant le RN le soir du 20 juin. Sauf que l'onde de choc à droite provoquée par cet accord peut encore déboucher sur de nouveaux rebondissements.
Alors lesquels ? On a vu hier le retrait immédiat de l'investiture. Est-ce que le parti peut aller plus loin ?
Eh bien, depuis hier après-midi, sachez-le, il y a la tentation du côté de LR de faire une liste séparée qui irait contre celle de la liste Muselier majorité présidentielle. Alors, vous l'imaginez, hein, cette idée provoque vraiment beaucoup de débats en interne parce que ça reviendrait à émietter donc le vote de droite et de donner directement, dès maintenant, la région au RN. Plusieurs personnalités approchées hier pour tirer une telle liste, dont Éric Ciotti, y réfléchissent, mais certains ne sont pas chauds. Du côté de LR, on affirmait que toutes les options étaient sur la table et que les décisions seraient prises cette semaine. C'est une semaine cruciale pour LR qui doit décider désormais qui est son adversaire dans le Sud. La République En Marche ou RN ? En tous les cas, on s'attendait à une évolution politique un an avant l'élection présidentielle. Eh bien, on la connaît maintenant. Depuis hier, Emmanuel Macron fait des élections régionales le début de la présidentielle et il abat ses cartes pour 2022, dynamiter la droite en se servant du parti lepéniste.
Merci Mickaël Darmon.
Et vous parliez d'Éric Ciotti, hein, il sera dans ce studio face à Sonia Mabrouk dans 5 minutes seulement sur Europe 1. Il est 8h10, Nordal Lelandais aux assises pour un premier procès à partir de ce matin à Chambéry.
Lui qui est accusé d'avoir tué la petite Maëlys à la fin de l'été 2017, comparé pour une autre affaire, c'était quelques mois plus tôt, le meurtre du caporal Arthur Noyer. Nordal Lelandais parle d'une bagarre qui a mal tourné après une soirée alcoolisée. C'était un combat mené par 863 salariés, leurs familles, les élus et toute une région, combat perdu par les ouvriers de Bridgestone à Béthune. Leur usine de pneus ferme aujourd'hui. 200 d'entre eux ont retrouvé du travail, mais vous allez le voir pour les autres. L'accompagnement a été de haut niveau, c'est à signaler, comme en témoigne ce que Maximilien Carrier a rencontré.
Dernier passage tourniquet pour Damien, la cinquantaine. Il quitte l'usine avec son sac cabas rempli d'habits de travail.
Il y a une casquette de sécurité, un polaire, une veste. Ça représente ma vie du boulot. Une fois que j'aurai digéré et que j'aurai entamé un nouveau processus de reconversion, et à ce moment-là, je les jetterai.
Sauf qu'avant, il faudra faire le deuil. 24 ans à Bridgestone tout de même, une page se tourne.
C'est une entreprise qui a contribué à faire vivre ma famille. Mon père a travaillé là, mes deux frères.
Mais pour Damien, tout s'arrête. Donc, à 7 ans de la retraite, et pas le choix, il a fallu trouver autre chose.
Je vais faire une formation de boucher charcutier. C'est un métier qui est très 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 recherché dans le Pas-de-Calais. Donc, je me suis dit, il faut que je mette tous les atouts de mon côté à mon âge pour me reconvertir. Donc, je vais me diriger dans cette branche et pour avoir toutes les chances de pouvoir rebondir et terminer ma carrière.
Et même si ses salariés ont toujours du mal à encaisser le choc de la fermeture, tous admettent avoir été bien suivis, bien accompagnés, bien aidés par le cabinet de reclassement.
De ce côté-là, on peut dire qu'on n'a pas été jetés dehors à la rue comme des chiens.
Avec, selon les syndicats, un des plus gros plans de sauvegarde de l'industrie en France, prime de départ moyenne de 106 000 euros. Béthune, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et puis, parce que nous aimons vous recommander les bonnes adresses, en voici une près de chez vous, où que vous habitiez.
Oui, la voici, 47 Terre. C'est tout. Ce n'est pas une rue, c'est sur les plateformes de musique. Car il s'agit du nom d'un groupe, trois amis d'enfance d'une vingtaine d'années. Ils sont validés tout autant par Big Flo et Oli que par Patrick Bruel que l'on voit dans un de leurs clips. Angèle Châtelier nous les fait découvrir.
Au milieu d'un sommeil noir, si j'arrive pas à me barrer, vas-y réveille-moi. J'adore le soleil noir tant que la belle vie me guette et veille sur moi.
47 Terre n'est pas qu'un groupe de rappeurs.
On s'est mis à danser sans savoir le faire. On a libéré nos pensées sans savoir les termes.
Le trio vient de Bailly en Île-de-France et à la maison, leurs parents écoutaient du métal. Dans leurs oreilles, à eux, il y a autant du rock que de la pop. Justin Bieber, Vianney, Dua Lipa. C'est ce mélange des genres qui a fait leur succès.
On a commencé avec des freestyles, donc je comprends qu'on nous ait mis dans cette catégorie de rappeurs. Mais en fait, nous, ce qu'on aime faire, tu vois, dans l'album, là, par exemple, il y a un morceau Avec toi, c'est uniquement de la pop.
Avec toi, j'ai remporté la victoire de ma vie.
Donc en fait, on n'est pas du tout dans une catégorie vraiment.
Et ça marche. Après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux, leur premier album s'est vendu à 50 000 exemplaires. Leur concert affiche complet. Aussi parce que leurs paroles sont positives. Ici, ils nous invitent à réaliser nos rêves.
Tu verras que la vie est fêlée si tu veux vivre tes rêves, alors c'est maintenant, vas-y, fais-le.
Leur rêve à eux de vivre de la musique s'est réalisé. Le nom de leur nouvel album, d'ailleurs, l'évoque Légende. Clin d'œil au concept de légende personnelle, qui consiste à trouver la destinée de sa vie.
Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Qu'est-ce qu'on attend pour briller ? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller ? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ?
Légende, l'album tout frais de 47 Terre. Vous allez voir que vous allez danser sur Légende cet été, quand il y aura des terrasses, quand il y aura des soirées.
Qu'est-ce qu'on attend pour vivre, disait le jeune homme. Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et dans un instant, l'invité politique d'Europe 1, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, au micro de Sonia Mabrouk. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le président de la commission d'investiture des Républicains, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Bienvenue à vous et bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Après l'alliance dès le premier tour en PACA entre Renaud Muselier et La République En Marche, le parti Les Républicains lui a retiré l'investiture LR. Est-ce que vous demandez ce matin l'exclusion de Renaud Muselier du parti Les Républicains ?
D'abord, je veux vous dire ce matin ma tristesse et quelque part un peu ma honte du spectacle qui est offert aux électeurs de notre région, aussi aux électeurs de la droite républicaine dans notre pays, sur fond de mauvaises et de petites combinaisons politiciennes. Aujourd'hui, Renaud Muselier a fait un choix. Ce choix, je le déplore, je le regrette, je le condamne fermement. Il fait un choix contre notre famille politique, mais aussi contre l'intérêt général, parce que ce choix va conduire vraisemblablement à l'élection de Thierry Mariani. Aujourd'hui, Renaud Muselier n'est plus que le tête de liste de la liste En Marche.
Donc, est-ce que vous demandez son exclusion si vous considérez...
Par ce choix qui va à l'encontre de la stratégie politique que notre famille politique, celle des Républicains, a définie, il s'est opposé à ce choix, il ne l'a pas respecté, nous l'avions adopté à l'unanimité, donc il s'est placé naturellement hors de notre famille politique.
C'est-à-dire que ce matin, vous dites que Renaud Muselier ne fait plus partie de lui-même du Parti Les Républicains ?
Pour moi, il n'en fait plus partie.
Il serait alors logique de présenter Éric Ciotti une liste estampillée LR en PACA ?
Nous allons en débattre aujourd'hui, demain, avec Christian Jacob. Nous aurons un comité stratégique demain matin, un Conseil national des Républicains.
Mais le temps presse, vous avez quelques jours pour déposer cette liste.
Le temps presse et tout ce qui se passe aujourd'hui, je dirais, cette mauvaise cuisine électorale, comme aurait dit le général de Gaulle, ils ont fait leur petite soupe sur leur petit feu élyséen dans la mauvaise marmite En Marche.
Marmite dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les Républicains également, comment allez-vous réagir? Est-ce que vous excluez, pour qu'on comprenne bien votre intention ce matin, qu'il y ait une liste estampillée LR?
Non, pas du tout. C'est une des hypothèses, des possibilités, mais moi, je
que
veux
vous pourriez
vraiment
mener vous-même?
Non. Moi, je suis élu départemental, je suis candidat aux élections départementales dans mon canton de Tourrette-Levens. J'en suis élu depuis 2008. C'est un canton qui a été touché durement par les intempéries. Je reste fidèle à la terre qui m'a vu naître et que je veux servir, d'autant qu'elle est en difficulté. Vous savez, moi, je tourne le dos à ces combinaisons. J'ai toujours eu les mêmes convictions et j'ai honte de voir aujourd'hui ce spectacle qui est offert, parce que derrière le pacte de Brégançon, il y a des postes, il y a des places qui se négocient.
Il y a des places de portefeuille ministériel pour
doute,
Renaud Muselier et d'autres.
Vraisemblablement, on parle de l'intérêt régional, mais la seule arrière-pensée, elle est nationale, c'est déstabiliser la droite républicaine. Mais moi, je suis très choqué qu'au cœur de la crise sanitaire, le président de la République, le Premier ministre, alors que chaque jour, on a encore plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de morts, que notre pays est toujours à l'arrêt alors que d'autres retrouvent la vie, qu'on a une situation d'insécurité qui
est
totale.
Qu'est-ce que vous
leur reprochez
de faire de la politique aussi ?
Le Premier ministre passe leur temps au cœur de la crise sanitaire à faire cette mauvaise tambouille politicienne.
Éric Ciotti, vous parlez...
C'est quand même assez méprisable.
Vous parlez de honte, vous nous dites ce matin que vous n'excluez pas de présenter une liste estampillée LR. Or, vous savez bien que si vous constituez une telle liste, vous ouvrez le chemin à la victoire du Rassemblement national. Vous êtes prêt à prendre ce risque? Ce ne serait pas aussi une honte de faire élire le Rassemblement national?
Vous savez, nous, on a toujours eu une ligne droite et claire avec Christian Jacob. On voit bien le jeu d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, ceux qui participent à ce jeu sont totalement dans sa main. Ils ont même subi l'humiliation de voir leur stratégie imposée par une directive du Premier ministre dans un journal qui leur a dit ce qu'il fallait faire.
Mais vous êtes prêt à offrir une victoire au Rassemblement national avec
une liste
estampillée LR?
Nous ne voulons ni de victoire du Front national, ni de victoire de M. Macron à l'élection présidentielle.
Attendez, ça veut dire que c'est le ni-ni, c'est-à-dire que vous n'avez pas
Macron,
à choisir entre M. Mariani et M. Muselier?
Ni Macron, ni Le Pen, nous l'avons toujours dit, les Français ne veulent pas de ce choix. Monsieur Macron veut leur imposer. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui gagner avec la seule stratégie de dire notre seul programme, notre seule conviction, nos seules idées, notre seul bilan, c'est battre le Front
National. Mais monsieur, je ne comprends pas.
Ce n'est plus ce que veulent les électeurs. Les électeurs, ils souffrent.
Oui.
On est dans une
crise. Mais
il y a du chômage, il y a des difficultés, il y a de l'insécurité. Et on nous dit le seul objectif, c'est battre le Front National.
Hier encore,
moi,
monsieur
le seul objectif, c'est que la France se relève et se redresse.
Mais en PACA, hier encore, monsieur Muselier était un homme de droite. Vous nous dites que ce matin, qu'entre un homme de droite qui fait encore partie de votre camp, les Républicains, vous ne choisissez pas avec monsieur Mariani.
Je n'ai pas voté monsieur Macron au second tour de l'élection présidentielle. J'ai mis dans l'urne
ce que certains vous reprochent d'ailleurs.
Le bulletin François Baroin, parce que je ne voulais pas cautionner le programme d'un homme qui me paraissait dangereux pour notre pays. 4 ans après, mes craintes se sont révélées très exactement confirmées.
Mais rendez-vous compte.
La France est abîmée par 4 ans de macronisme.
Très bien, mais quand vous dites que voter Renaud Muselier, c'est voter Emmanuel Macron, ça veut dire que vous encouragez vos élus et sympathisants LR à voter M. Mariani en PACA.
Je n'encourage rien du tout.
Vous savez que
je n'ai pas voté M. Macron, je ne voterai pas pour ses collaborateurs. Je le dis très clairement. Aujourd'hui, on peut me faire tous les reproches de la terre. J'en ai cure, j'ai des convictions, j'ai des valeurs. Je ne me compromettrai pas. Je garde une ligne claire. Je suis un homme de droite. Mon pays souffre. est en difficulté, il est menacé.
Monsieur Ciotti, est-ce que Renaud Muselier est un adversaire politique aujourd'hui pour vous ?
À partir du moment où il est dans le jeu total d'Emmanuel Macron, il s'est mis, je le redis, en situation d'être notre adversaire politique.
C'est drôle parce que vous êtes implacable quand il s'agit d'une alliance avec La République En Marche, mais pas un mot lorsqu'en Bourgogne-Franche-Comté, le républicain Gilles Platret négocie avec Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, qui a été un allié de Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a des alliances qui vous gênent moins ?
Écoutez, ça, ce sont les éléments de langage que diffuse l'Élysée.
C'est une vraie question.
À leur porte-parole, non. Dans la Nièvre, dans le département de la Nièvre, où nous avons quasiment aucun élu, il y a une personne qui a d'ailleurs tourné le dos très clairement au Front National, qui figurera sur la liste de Gilles Platret.
Et ça ne vous pose pas de problème.
Nous voulons, dans cette région, battre le sortant de gauche. Et nous
mais ça ne vous pose pas de problème quand il y a ce genre d'alliance,
national.
Monsieur Ciotti.
Ce n'est pas la même chose. Vous voyez bien ce qui se passe au plan national. C'est une stratégie pour l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'un élu dans la Nièvre change la stratégie de notre famille politique. Nous ne savons, le redit, nous ne céderons rien, ni d'un côté, ni de l'autre.
Êtes-vous sûr
les
de l'autre ?
Les Républicains, nous sommes les héritiers
la seule différence.
Du général de Gaulle,
oui,
de Jacques
certains...
Chirac, de Nicolas Sarkozy, et on ne veut pas disparaître.
Certains
Monsieur
vous
Macron
nient
veut
cette
nous
filiation.
Faire disparaître. C'est un jeu, Xavier Bertrand l'a dit, et il a raison, extraordinairement dangereux. Parce qu'à ce jeu-là, on va finir par faire élire Madame Le Pen.
Vous avez répété deux fois.
Parce que Monsieur
Ciotti, attendez. Vous avez répété deux fois.
Le meilleur candidat pour battre Madame Le Pen.
Vous avez
Je
répété
le dis,
deux fois.
C'est même le plus mauvais.
Le général de Gaulle, la seule différence, dites-vous, entre les Républicains et le Rassemblement national, c'est la capacité à gouverner. C'est ce que vous avez dit lors d'un entretien à Valeurs Actuelles. Vous partagez donc l'essentiel des idées
Mais
du RN.
Lisez cette interview.
Je l'ai fait. Vous
ne pouvez pas dire ça si vous avez lu cette
vous
interview.
Vous n'assumez plus votre
J'ai
phrase.
J'ai repris la phrase du journaliste qui m'a posé une question sur des questions précises sur l'immigration. La capacité à gouverner, elle différencie de tout. Bien sûr qu'on a des valeurs différentes.
Lesquelles ?
Bien sûr.
Si vous êtes d'accord sur les questions migratoires, si vous êtes d'accord sur les questions sécuritaires, si comme Madame Le Pen, vous avez soutenu la tribune des ex-généraux, dites-nous ce matin quelle est votre différence.
On a une histoire différente.
Oui, mais vous, avec vous,
monsieur Ciotti. Nous sommes les héritiers d'une famille politique qui n'a rien à voir et ça change tout. Nous avons une capacité à gouverner aussi, parce que je le dis très clairement.
Mais ce n'est pas suffisant comme différence.
Il faudra des hommes et des femmes.
Quelle est votre différence de logiciel idéologique.
Compétent, c'est ses valeurs, c'est cette histoire, c'est un
Quelle
programme
valeur,
cohérent,
précisément
équilibré, qui permet de redresser la France dans la sérénité et pas dans le chaos. Moi, je ne veux pas demain le chaos pour mon pays. Donc, la capacité à gouverner, c'est la capacité de stabilité pour un pays, c'est la capacité à se redresser dans une situation de crise.
Thierry
Nous
Solaire.
Sommes dans une situation de crise. Nous sommes au bord du
Bien.
Chaos.
Thierry
Nous
Solaire, je voudrais vous faire écouter quelque chose, Monsieur Ciotti. Thierry
le conseiller
Solaire.
Spécial en trahison. Du
Thierry
président
Solaire,
de la République.
Qui a estimé hier sur CNews que
c'est
vous
lui
êtes,
qui a négocié l'accord.
Que vous êtes tout près du Rassemblement National. Et écoutez hier, au grand rendez-vous de Michaël Darmon, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à votre sujet, Éric Ciotti.
Vous avez aujourd'hui, chez les LR, ceux qui veulent construire avec nous et ceux qui veulent pactiser avec le Rassemblement National. Éric Ciotti, je vous le citais à l'instant, qui dit qu'il n'y a plus de différence de ligne et de fond avec le Rassemblement National, ce qui est une vraie rupture.
C'est le cas ?
Mais naturellement, non. Mais là, vous êtes... Enfin, vous êtes... Pas vous, je ne vous fais pas de procès. Ce sont les éléments qui ont été massivement diffusés par la majorité En Marche ce week-end. Leur seule idée, leur seul programme, leur seule réalisation, c'est dire « nous sommes opposés au Front National ». Je le dis aujourd'hui, les Français, ils ne sont plus là-dessus. Les Français, ils veulent des solutions à l'immigration qui a battu des records historiques sous M. Macron, au terrorisme qui continue à monter dans notre pays. Nous sommes le pays où on a décapité un enseignant aujourd'hui. La rue est soumise tous les jours, toutes les nuits à la violence, aux trafiquants de drogue et aux islamistes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Collomb. Nous y sommes. Et on nous dit, le seul programme, c'est battre le Front National. Mais battons-le sur des idées, sur des réalisations, sur des projets.
Pourriez-vous affirmer ?
C'est ce que je propose. Moi, vous savez, j'ai toujours été confronté au Front National.
Mais ce matin, pourriez-vous
affirmer ?
Dans
ma circonscription, ils ont fait un des scores les plus bas. Pourquoi ? Parce que je dis les choses, je les fais, je les applique. C'est comme ça qu'on combat le Front National,
pas
par des incantations.
Pardonnez-moi, vous n'avez pas de candidat ?
Nous aurons un candidat, bien sûr.
Vous avez évoqué Xavier Bertrand. Est-ce qu'il est le candidat naturel ? Hier, il a répété, Xavier Bertrand, que lui peut gagner seul, justement, dans sa région. Est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il ne faut pas le soutenir dès maintenant, candidat naturel de la droite ?
Xavier Bertrand est un ami, c'est quelqu'un de qualité. Il peut faire partie aujourd'hui de ceux qui porteront cette espérance. Mais il faut sortir de cet étau qu'a construit M. Macron de façon très cynique avec quelques complices pour faire ce face-à-face avec Marine Le Pen. C'est la droite républicaine, c'est pour ça qu'on est attaqué aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est pris pour cible, parce que PACA, c'est le dernier des soucis de M. Macron. C'est un élément dans sa stratégie globale pour détruire notre famille politique. Mais au compte, parce qu'il sait très bien que la menace, elle vient de là. Nous devons porter une alternative, que ce soit Xavier Bertrand ou un autre. Nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Il sera le mieux placé, et les sondages le disent,
et vous n'excluez
pour battre
pas,
Marine Le Pen.
Pour conclure, une liste aussi estampillée LR en PACA.
Nous en débattrons très clairement. Mais en tout cas, les Républicains sont là. Nous avons des idées claires. Nous avons, je le redis, une capacité de gouverner. Et nous serons demain en mesure de porter cette alternance. On veut nous détruire, mais c'est dans les moments de crise qu'on voit les hommes
c'est
de conviction.
C'est bien cette à suivre. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, l'information, Marion Calais, la météo de Laurent Cabrol, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h32 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
L'ouverture dans une demi-heure du procès de Nordal Lelandais, l'ancien militaire jugé devant les assises de Savoie pour le meurtre du caporal Arthur Noyer il y a 4 ans. Marion Dubreuil, vous êtes à Chambéry. Pour Europe 1, le procès va durer 8 jours et il va commencer par un examen de la personnalité de l'accusé.
Oui, d'après ses anciennes compagnes, Nordal Lelandais a une double personnalité, prévenant et manipulateur. De son expérience au sein de l'armée, Nordal Lelandais a conservé la méthode. Le trentenaire compartimente sa vie, 2 téléphones portables, l'un pour ses relations sexuelles, l'autre pour sa famille et ses proches. La nuit du meurtre d'Arthur Noyer, l'accusé a d'ailleurs bien pris soin d'éteindre ses 2 téléphones. Le mobile est à chercher du côté de la toute-puissance. Nordal Lelandais est intolérant à la frustration. Le 11 avril 2017, il a été conduit par 2 partenaires sexuels. Le maître chien se rend donc à Chambéry avec une envie à assouvir, d'après les magistrats instructeurs. On le voit rôder sur les images de vidéosurveillance entre 23h et 3h du matin, à pied ou en voiture, lentement. Arthur Noyer est une proie vulnérable. Le jeune homme de 23 ans est fortement alcoolisé quand il croise sa route. Pourquoi est-il monté dans sa voiture ? D'après un co-détenu à qui Nordal Lelandais s'est confié, c'est parce que le jeune homme de 23 ans a finalement refusé ses avances, qu'il l'a frappé à mort avec une pierre.
Marion Dubreuil à Chambéry pour Europe 1. En Californie, procès aujourd'hui d'un tout autre genre, les pratiques du géant Apple, dénoncées par Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite. La marque à la pomme accusée d'entraver la concurrence sur son magasin d'applications. 3 semaines d'audience et le patron d'Apple notamment attendu à la barre. Retour en classe pour les collégiens, alternance de présentiel et de cours à distance pour les lycéens. Première étape ce lundi du déconfinement, une reprise accompagnée d'un déploiement massif dans les établissements scolaires, des autotests, d'abord pour les enseignants, des profs qui, au-delà de leurs conditions d'exercice, se demandent comment ils vont pouvoir boucler leur programme. Ce week-end, certains d'entre eux se sont rassemblés devant le rectorat de Strasbourg. Mélina Fachin y était pour Europe 1.
Dans cette assemblée de professeurs, tous appréhendent la fin de l'année scolaire. Les cours à distance ont augmenté les inégalités, estime Thomas, prof de PS dans un collège en REP.
J'ai des collègues, profs de maths, de 3e, qui n'ont aucun élève en classe virtuelle proposée. Plus ils sont grands chez nous, et plus le décrochage est grand aussi. Au-delà des conditions sanitaires, c'est ça qu'on va avoir du mal à rattraper sur la fin d'année.
Les conditions sanitaires et le protocole renforcé interrogent au contraire Francis, prof d'histoire géo.
On se demande comment ça va se passer, si le protocole est respecté à la lettre, avec la fermeture d'une classe au premier cas positif. Pour les tests des élèves, ça reste l'inconnu.
L'inconnu pour Olivier, prof de SVT en 3e, c'est surtout le brevet fin juin.
Sur les écrits, ça va aller parce qu'on a fait des examens blancs, on en a fait 2, ils sont assez bien préparés. Le problème, ça va être sur l'oral. On aurait dû vraiment les préparer à cet exercice, on ne l'a pas fait. C'est une épreuve qu'ils ne vont pas bien réussir, c'est sûr.
Et puis, au-delà de cette année scolaire, on pense déjà à la suivante, notamment à l'orientation pleine de points d'interrogation des jeunes qui terminent le collège dans 2 mois. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Un déconfinement qui passe aussi aujourd'hui par la fin des restrictions de déplacement et d'ailleurs avec la liberté retrouvée de voyager. Nous sommes nombreux à préparer les ponts prochains et les grandes vacances, un mouvement que la SNCF entend accompagner. D'après nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, 5 millions de billets à 39 euros seront mis en vente à partir d'aujourd'hui, des billets valables jusqu'à la fin août. Et puis, les précisions du ministre de l'Économie sur les conditions d'indemnisation des restaurateurs, cafetiers, des entreprises de la culture ou de l'événementiel qui rouvriront partiellement. Ils continueront d'être éligibles dès le mois prochain au fonds de solidarité, même si leurs pertes de chiffre d'affaires sont inférieures à 50%, annonce donc de Bruno Le Maire. Il dénonce une mauvaise cuisine électorale, les mots il y a quelques minutes sur Europe 1 d'Éric Ciotti. Pour le député LR des Alpes-Maritimes et président de la commission d'investiture des Républicains, Renaud Muselier ne fait plus partie de fait des Républicains. Le président sortant de la région PACA qui a conclu une alliance ce week-end avec La République En Marche en vue des régionales de juin prochain. Quelques affaires médiatiques ces derniers mois, un durcissement voté par les députés à l'automne dernier, mais un phénomène à l'heure actuelle mal évalué, celui des squats des résidences principales ou secondaires. C'est pour mieux évaluer justement ce que représentent ces squats qu'un observatoire aujourd'hui est lancé. Les explications d'Emmanuel Wargon, la ministre du Logement.
Pour l'instant, on ne centralise pas les dossiers, donc on en connaît un certain nombre parce qu'ils sont médiatisés. Mais on n'a pas de suivi précis. Donc moi, je ne sais pas vous dire combien de dossiers de squat chez des particuliers nous avons chaque année, en combien de temps ils sont traités, en combien de temps ils sont réglés. Donc c'est pour ça que je crée cet observatoire, pour avoir des données fiables et pour pouvoir voir si on progresse ou pas. Et j'espère bien qu'on aura progressivement moins de dossiers de squat au fur et à mesure que les squatteurs se rendront compte que de toute façon, on agit rapidement.
Emmanuel Wargon, la ministre du Logement, invitée du 5-7 d'Europe 1 avec Sébastien Krebs. Ils ont rendez-vous le 22 mai prochain. Ce sera
la
à
finale
Twickenham.
De l'Eurovision.
Exactement, finale. Ouais, mais ce sera la Coupe d'Europe de rugby, La Rochelle et Toulouse. La Rochelle qui a battu hier les Irlandais du Leinster.
Merci Mario Calais. Pardonnez-moi, j'étais pas très concentré. 8h37 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Alors, je reviens d'un mot sur les prévisions de l'été, puisque Météo France annonce un été chaud, sans canicule, en reprenant ainsi les données des météos européennes et américaines. Bon, tout le monde semble d'accord pour dire que juin, juillet serait très chaud, parfois très chaud, mais pas de canicule au sens propre du terme, c'est-à-dire des chaleurs très élevées avec une amplitude très faible entre la nuit et le jour. Donc voilà pour la tendance. Aujourd'hui, il fera beau sur quasiment toute la France, excepté près de la Manche. Je m'en veux, parce que depuis ce matin, je ne vous parle pas suffisamment du vent qui va souffler sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. C'est un vent très, très violent. Je vous ai parlé tout à l'heure de 60, 70, 80 km/h, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à 90 et 100 km/h cette nuit, donc soyez particulièrement prudents. J'y reviens à 9h sur cette météo un peu alarmante. A tout à l'heure.
A tout à l'heure, Laurent Cabrol. 8h38 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
On retrouve le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors c'est amusant, il y a 1h20, nous étions avec Stéphane Bern en train d'évoquer l'origine de l'expression la flemme, hein, être un flemmard. Et bien avec vous, nous allons parler de la sieste. Mais alors, c'est pas de la flemme, non, nous allons parler des vertus de la sieste, notamment sur nos performances intellectuelles.
Eh oui, car tout le monde sait que pour bien grandir, il faut bien dormir. Mais beaucoup ignorent que pour avoir un cerveau en pleine forme et booster ses capacités intellectuelles, il faut aussi bien dormir. Durant la nuit, vous enchaînez plusieurs phases de sommeil avec ce qu'on appelle les trains du sommeil. Certaines phases vont vous aider à consolider votre mémoire et stocker les informations. D'autres vont vous permettre de consolider de nouveaux apprentissages, comme par exemple faire du vélo. Et justement, lorsqu'un enfant apprend à jouer un instrument de musique ou un nouveau sport, il sera plus habile après un temps de sommeil que les autres enfants qui se seraient contentés d'un petit temps calme. On le sait, chez les tout petits enfants, ceux de moins de 5 ans, la sieste permet de renforcer ce qui a été appris le matin. En clair, le sommeil favorise les apprentissages acquis durant la journée.
Les enfants arrêtent de faire la sieste vers 5-6 ans, mais elle serait bénéfique pour nous aussi, les adultes. Nous devrions tous faire une petite sieste en fait.
Eh oui, les études montrent que nous dormons surtout de plus en plus mal et de moins en moins, alors que les besoins en sommeil sont constants. Je vous rappelle que nous avons besoin en moyenne de 7 heures de sommeil par nuit sur 7 jours. Nous sommes donc en dette de sommeil et cela va se ressentir sur notre morale, sur notre humeur, notre concentration, notre stress, mais aussi nos performances intellectuelles. Et si on rajoute à ça la petite baisse de vigilance qui apparaît chez tout le monde entre midi et 14 heures, il faut donc croire que c'est le moment idéal pour essayer de se reposer avec une courte sieste.
Alors quelle vertu auraient ces petites sieste.
Alors, dans une étude publiée récemment, ceux qui font de courtes siestes ont de meilleures performances intellectuelles, mais aussi une meilleure capacité à se repérer dans l'espace, ainsi qu'une meilleure expression verbale. En fait, vous n'en doutez pas, mais durant ces siestes, au-delà du repos, eh bien, ça va permettre à vos neurones de se restructurer, de se resynchroniser. Alors, soyons honnêtes, en France, la sieste en entreprise, c'est un peu un tabou, alors qu'elle est obligatoire au Japon, par exemple, car on le sait qu'en plus de ça, elle permet de réduire les accidents de travail, mais aussi les accidents de circulation. L'idéal, c'est de faire cette sieste en tout début d'après-midi, aux alentours de 13h, car si vous la faites trop tard, vous risquez l'insomnie le soir même. Et en termes de durée, il faut qu'elle soit relativement courte, comptez 10 à 20 minutes, car au-delà, vous risquez de tomber dans une phase de sommeil plus profonde et de vous réveiller avec la sensation désagréable d'être plus ralenti qu'avant la sieste. Et donc du coup, n'oubliez pas de mettre votre réveil avant de vous endormir.
Oui, c'est vrai que si on fait une sieste d'une demi-heure et qu'il nous faut une heure pour se réveiller, c'est autrement c'est plus problématique. Vous faites la sieste, vous, Jimmy ?
J'ai plus le temps, mais il faudrait de temps en temps.
Oui,
faudrait en faire.
Moi, je fais la sieste. Je fais beaucoup la sieste, mais je fais plus la nuit. Merci Jimmy Mohamed. Notre santé tous les matins sur Europe 1. 8h41. On retrouve Fanny Agostini, Notre Planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et Fanny, vous nous dites ce matin qu'au Canada, une municipalité a décidé de traiter une rivière comme si c'était une vraie personne.
Mais oui, totalement. Afin de pouvoir défendre les droits d'une rivière en fait et de lutter contre sa dégradation, c'est en février dernier au Canada qu'une municipalité a annoncé qu'une rivière, la rivière McPee, aurait désormais le statut de personnalité juridique morale, au même titre finalement qu'une association ou une entreprise par exemple. Cette rivière était convoitée pour son potentiel hydroélectrique, mais grâce à ce statut juridique, la rivière se voit dotée de 9 droits fondamentaux, dont par exemple le droit du respect de ses cycles naturels, le droit d'être préservée et protégée. Cette décision légale hors du commun implique aussi la désignation de gardiens qui auront la responsabilité de défendre la rivière en justice si ces droits étaient compromis. Ils pourront donc à la fois intenter des actions légales et réclamer des réparations et des compensations financières, au seul bénéfice de la rivière.
Et Fanny, vous nous dites que ce type de reconnaissance juridique offre une meilleure protection que de classer des espaces naturels comme on le fait d'habitude ?
Ben alors, ce que je veux dire en fait, c'est que personnifier la nature est ce qui se rapproche le plus de la panacée. Pour l'instant, dans le monde, c'est vrai qu'on se contente le plus souvent de reconnaissance de la nature comme patrimoine commun. Mais ce système a ses limites car c'est les États qui sont garants de la protection de la nature selon les termes qu'ils ont eux-mêmes définis. Or, de nombreux intérêts divergents traversent les États, on le sait, la préservation de la nature entre souvent en conflit avec la pérennité économique et l'État se retrouve alors à devoir réparer des dégâts qu'il avait le pouvoir à la base d'empêcher.
Vous avez pris l'exemple de cette rivière au Canada. Que font les autres pays ?
Alors, il faut savoir qu'en ce moment, il y a de nombreux pays qui pratiquent de plus en plus la personnification juridique pour des rivières, mais aussi des montagnes ou des forêts, comme en Bolivie, Nouvelle-Zélande, Colombie, en Inde ou au Mexique. Et puis, il y a aussi l'Équateur qui est même allé jusqu'à l'inscrire dans sa constitution, la protection de la nature. Cela donne aux lieux personnifiés le droit d'empêcher des projets industriels. Et le trait commun à tous ces lieux devenus personnes morales, eh bien, c'est la présence de peuples autochtones qui ont milité pour que les écosystèmes soit reconnu, des peuples chez lesquels il n'y a parfois pas de mots pour décrire la nature, bien souvent parce qu'ils ne s'en dissocient pas.
Oui, merci beaucoup. Du coup, pas besoin de mots. Fanny Agostini, merci mille fois. Notre Planète, c'est tous les matins sur Europe 1, 8h44. Dans quelques toutes petites secondes, on va retrouver Nicolas Canteloup. Il arrive, Julie est déjà là, à tout de suite.
Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio avec nous, Sonia Mabrouk et Éric Ciotti.
Oui, mon invité Éric Ciotti, président de la commission d'investiture des Républicains. C'est un véritable séisme qui se déroule en PACA. Après avoir retiré l'investiture LR, est-ce que vous êtes prêt à demander l'exclusion carrément de Renaud Muselier, Éric Ciotti ? Répondez, Éric Ciotti.
Écoutez, avant toute chose, Mabrouk, j'aimerais... Oui, c'est gentil, merci. Quelle note vous me donnez, Leclerc ?
21 sur 20.
Oh, c'est gentil, c'est mérité. Écoute, si vous saviez le tout où je travaille toute la nuit, si vous saviez... Genre, vous avez en face de vous, au-delà du sourire que j'affiche... Vous avez un homme qui aimerait dire sa tristesse et sa honte vis-à-vis des électeurs qui nous font confiance depuis tant d'années. Tout ça sur fond de tractations, de petites cuisines, sur son petit feu élyséen, dans la petite marmite électorale. C'est pas mal la formule. Hein.
Pas mal,
ouais. Oui, oui, j'ai travaillé la formule. En fait, je dînais hier avec Christian Jacob, on s'est dit, tiens, petite cuisine, petit feu élyséen, ça sonne bien, petite marmite. Voilà. Non, franchement, je condamne l'attitude, ce choix de Renaud Muselier. Je le condamne, Renaud Muselier, je le conspue et je le conchis. Voilà.
Mais Éric Ciotti, vous allez présenter un candidat LR en région PACA, vous peut-être sur la liste LR?
Non, moi prendre une branlée, non, vous savez, moi je suis un élu fidèle de mon canton de Tourrette-Levin, je reste fidèle à ma terre hein, en tant qu'agriculteur, moi je reste fidèle à ma terre qui m'a vu naître et grandir, enfin surtout naître. Ma consigne, c'est ni Macron ni Le Pen, voilà.
Oula, c'est-à-dire qu'entre Renaud Muselier et Thierry Mariani, vous ne choisissez pas entre En Marche et Rassemblement National quelque part? Oula, je tiens un truc, là je vais pas te lâcher, toi. Voilà.
Oui, mais écoutez, moi j'assume, non, ni Macron ni Le Pen, parce que j'ai des valeurs, moi, madame, j'ai des valeurs, mon pays souffre. Hein, donc je garde mes valeurs, je garde un cap. Aïe, j'ai mal à ma France, voilà. Et cette alliance de Renaud Muselier est totalement honteuse, voilà.
Mais attendez, Éric Ciotti, je ne comprends pas. Non, c'est honteux. Mais je ne comprends pas. Hier encore.
Non, mais attendez.
Hier encore. Oui, je vais faire du Charles Aznavour. Oui, hier encore. Je ne comprends pas. Dans la Nièvre, Gilles Plâtré a fait alliance avec un homme de M. Dupont-Aignan. Donc cette alliance ne vous choque pas, par contre, là?
Non, mais écoutez, Maman Brook, c'est la Nièvre, je sais même pas où c'est la Nièvre, il y a 12 habitants dans 8 chèvres, peut-être M. Capral le connaît, mais non, écoutez, non. Écoutez, ça n'a aucune incidence nationale, il y a Nièvre, on s'en fout, hein. Emmanuel Macron, moi ce que je dis, c'est qu'il est en train de tuer notre famille politique. Emmanuel Macron est dangereux pour notre pays. Il est entre deux Ligonnès et Nordal-Lelandais.
Oh hein,
voilà, oui, j'exagère un peu parce que je suis du sud. Pas du sud de la Nièvre, du sud-sud. Hein, voilà.
C'est bon?
Oui. Non, mais j'ai encore des choses à dire.
Non, attendez, ce que je vous propose, vous restez dans les parages parce que moi j'ai quand même des petites choses à vous demander hein, dans un instant. Okay,
je mets un petit drapeau parce que sinon vous ne me trouvez plus.
Mathieu, allez, on vous retrouve.
C'est comme ceux qui font la plongée sous-marine, on voit la petite
bouée. Oui, Monsieur Ciotti, c'est bon là.
Oui, pardon, excusez-moi, vous avez peut-être d'autres invités à votre émission. Non, mais je comprends que vous soyez pluraliste sur votre radio généraliste.
Allez, c'est bon, Mathieu Béliard.
Merci, Monsieur Ciotti. Bonjour Julie, allez, bienvenue sur Europe 1. On reprend la main de cette info. Europe 1 regarde le monde bouger à 10, 11, voire même 12 kilomètres. Et oui, c'est la première phase, chers auditeurs, du déconfinement qui débute aujourd'hui. C'est formidable. C'est quand même une grande nouvelle. On est très positif ce lundi 3 mai. Enfin, la fin de l'imitation des déplacements. La fin aussi de
quoi?
Oui, non, c'est juste la fin de l'imitation des déplacements. Mais bon, voilà, il y a que ça qui change. Voilà. Faut rester positif. C'est pas encore la vie d'avant, mais on peut aller quand même jusqu'à Melun. C'est quand même quelque chose. Hein, c'est déjà ça. Bon, peut-être pas jusqu'en Nièvre. Si, on peut aller jusque dans la Nièvre. C'est sympa.
Oui, Nevers, ça vaut le coup de visiter. Si
oui, Nevers, oui, rattrapez bien le coup. C'est bien.
Ah,
allez,
bah,
c'est bien. Et avec l'autorisation des déplacements, même, on le remarque, les républicains, la République en marche en profite pour se déplacer vers les républicains tout court, vers LR. Et c'est incroyable, c'est le coup de tonnerre, cette alliance entre Renaud Muselier et La République En Marche, une alliance entre la droite et la droite. C'est complètement fou. Hein. Allez, à vous Julie.
Merci Mathieu. Allez, on revient sur ce titre accrocheur dans le JDD. Hier, Castex a dit oui à Muselier. Jean Castex, bonjour, vous confirmez ça
hein? Oui. Oui, je confirme, mais je précise comme l'accroche de ce titre, Castex a dit oui à Muselier, je précise que l'accroche prête à confusion. Et en plus, comme on me voit en photo dans le J2D prendre dans les bras Renaud Muselier à qui j'aurais dit oui, mais j'ai dit oui, mais pas dans le cadre d'un mariage homosexuel.
Ah bon,
voilà. Je suis pour le mariage homosexuel. Mais comme ma mamie et mon papy écoutent, je veux leur éviter un infarctus. Voilà. Il s'agit d'un mariage simplement politique.
On avait bien compris. Alors, votre secrétaire d'État... Votre secrétaire d'État, Sophie Cluzel, se retire. Elle figurera sur la liste de Renaud Muselier. L'objectif, c'est de faire barrage au RN.
Voilà, tout à fait, c'est l'objectif, Madame Julie. Mmh. Mais comme on se connaît, maintenant, je vais vous faire une confidence. Mmh. On a un double objectif. Mmh. Faire barrage et ne pas prendre une branlée aux élections. Parce que, comment vous dire, parce que Sophie Cluzel est formidable, elle est très populaire, elle est charismatique à souhait, mais on n'a pas vraiment confiance. Vous voyez, elle nous amène dans le mur et en plus en klaxonnant. Oh, qu'est-ce qu'ils sont pointus. Bravo Jean, la technique. Jean Le Naff qui illustre de façon sonore cette chronique dans son magistral depuis combien 40, 45 ans
au moins. Allez, on vous laisse Jean Castex, à très bientôt. Bah, tiens, on reprend avec nous Éric Ciotti puisque vous êtes toujours parmi nous. Vous avez déclaré, Monsieur Ciotti, ce qui nous différencie globalement du Rassemblement National, c'est notre capacité à gouverner. C'est une phrase qui a fait polémique, hein, surtout à cause du mot « globalement ».
Oui, tout à fait. Et c'est toi dire. On peut m'ouvrir le micro, s'il vous plaît. Merci.
On vous entend, monsieur Ciotti.
Ou me le baisser, le micro, mais on m'entend. Voilà, merci, il est à ma hauteur. Alors, oui, franchement, vous auriez besoin d'un dictionnaire dans ce bureau. Alors.
Ce studio, là, oui, bah, pour réviser le sens du mot globalement, c'est ça?
Mais non, mais que je puisse m'asseoir dessus. La chaise est trop basse. Excusez-moi. Mais
mon dictionnaire.
Non, mais regardez, voyez, monsieur Cabrol, mais de là où il est placé. Expliquez quand même à vos auditeurs, de là où est placé M. Cabrol, il ne voit que mon crâne, le haut de mon crâne. Hein, tous les coups, il se croit dans une chasse aux œufs de Pâques, là. Oh, non, bref. Essayez de respecter vos invités. Bref, c'est cette polémique est stérile et artificielle. Oui, je le redis, par rapport au parti de Marine Le Pen, nous avons cette différence fondamentale. Nous sommes en mesure, nous, de gouverner.
Oui, mais formulé comme ça, ça sous-entend que c'est votre seule différence avec Marine Le Pen.
Mais c'est grotesque et surtout c'est concomitant. Bien sûr que j'ai des différences avec ma Marine Le Pen. Mais les cheveux, par exemple, hein, elle est blonde. J'ai été brun. Par ailleurs, Marine Le Pen.
Le pêche, si vous voulez.
Oui, vous avez envie de pécho, vous. Par ailleurs, Marine Le Pen. Oui, c'est pas dans le texte, monsieur. Ça fait rire, monsieur Béliard. Alors, tout ce qui n'est pas dans le texte fait rire, monsieur Béliard. C'est bien la peine de s'échiner des nuits durant, de passer des nuits blanches à écrire des choses pour les auditeurs. Et monsieur Béliard, ce qui nous fait rire, c'est ce qui n'est pas écrit. Eh bien, la prochaine fois, j'ai réveillé André avec une feuille blanche et je ferai tout un impro, comme je le suis actuellement.
Bon, on en est où ?
Ça va être un beau bordel. Attends, alors, écoutez, non, il faut remettre un peu d'ordre dans ce pays, allez, dans cette émission,
mais
d'ailleurs.
Mais dépêchez-vous, parce que... Hein,
oui, mais si... Non, parce que vous voyez, si, en gagnant du temps comme ça, tout le test que je n'ai pas fait là, eh bien, je pourrais le resservir aux auditeurs demain. Et c'est tout, c'est du travail en moins pour tous les auteurs. Mais oui, il faut dire la vérité aux auditeurs. À un moment donné, ça va. C'est ce qu'on appelle mettre un petit texte au frigo pour servir le lendemain. Vous n'avez jamais mangé des restes, vous, madame, monsieur Béliard, monsieur Cabrol. Voilà, mais il reste au frigo, on se resserre. Ça évite de refaire la cuisine pour la journée. Bon, on en était où, là? Parce que moi, je vous rappelle, j'aime pas cette petite cuisine sur ces petits feux élyséens, cette petite marmite électorale. Oh là là. Bon, alors là, j'ai bien gagné du temps. Il est 9h, on se quitte maintenant. Non, on continue. Alors, je disais, mes différences, c'est Marine Le Pen. Voilà. Elle est blonde, j'étais brun. Elle chose du 43, je chose du 36. Marine Le Pen est une femme, je suis un monsieur.
Oh, arrêtez avec ça. Mais moi, je voulais parler des différences dans vos programmes. Il y en a pas? Il y en a?
Mais oui, des différences programmatiques. Oui. Mais oui, il y en a. Marine Le Pen trouve qu'il y a des différences programmatiques.
Oui,
vous
oui.
Bah, eh bien, oui, mais dites la question telle qu'elle est écrite.
Mais programmatique, que sinon... c'est un peu lourd comme adjectif.
Non, si les gens comprennent. Les auditeurs européens, c'est CS++. C'est CSP++. On n'est pas sur Skyrock. Hein. Bon, alors, son programmatique, ça, ce que ça veut dire. Je gagne du temps, là. Hein, je meurs. Alors, vous verrez le texte que je vais vous servir demain, mais il sera peaufiné, appris par cœur. Et... Alors, oui. Oui, bon, on a le droit de s'offrir des petits jours de congé comme ça, ça se voit pas. Alors, oui, il y en a, des différences de programme. Il y en a, Marine Le Pen trouve qu'il y a, par exemple, trop de musulmans. Nous pensons que les pratiquants de l'islam sont en surnombre.
Voilà. Marine Le Pen, oui, non, mais j'en ai d'autres des exemples. Vous ne prendrez pas en défaut. Marine Le Pen trouve qu'Emmanuel Macron est laxiste. Nous, nous pensons que le gouvernement ne fait rien. Voilà. Quoi d'autre? Franchement, il y a tellement de différents. Je sais plus quoi vous dire.
Ah bah dites rien, allez.
Mais on a bien gagné du temps.
Bon, bah on a des tas de choses pour demain.
Il y a dans trois quarts d'émission qui me reste pour demain.
Pour demain, on aura du Marine Le Pen, du Bachelot.
Ah bah oui, du Pierre Ménès,
du
Bachelot.
Et permettez-moi de saluer Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange.
Ah, mais ils sont en repos, ils sont en repos.
Qui écrivent toutes ces blagues entre les impros de Nicolas Canteloup. Merci Nicolas. À demain, j'allais dire à demain. Non, c'est Sébastien Krebs que vous retrouverez demain matin. Exceptionnellement, moi je reviens mercredi matin. Mais tout de suite. 9h-11h, c'est Culture Média avec Philippe Vandel. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour. Notre info média du jour va vous mettre l'eau à la bouche. On va parler d'une opération qui mêle le cinéma et la gastronomie à l'heure où les terrasses vont bientôt rouvrir. Ça s'appelle Ciné Plus à table. On sera avec Anne Martinetti, auteur d'un documentaire Ciné Miam, et Jean-Marc Jurami de Canal+, parce qu'évidemment Ciné Plus dépend de Canal. Au sommaire également, le patron de l'AFP, le président de l'AFP, l'agence France Presse, Fabrice Friz, il publie L'emprise du faux, essai dans lequel il explique d'où vient la désinformation, mais surtout le plus intéressant, comment la combattre. Notamment, il souhaite appliquer le principe à l'info du pollueur-payeur. Et puis, la chanteuse Barbara Pravi, c'est elle qui va représenter la France à l'Eurovision le 22 mai. Et là, elle présente son mini-album qui s'appelle Prière, en plus de son tube qui s'appelle lui-même Voilà.
Voilà. Voilà. Et pour une fois, on a des chances. Les bookmakers la mettent en tête. On va raconter tout ça dans...
Soit en 1, soit en 2, soit en 3.
C'est pas mal pour la France.
C'est
déjà
énorme. Sur Culture 39,
média
c'est vraiment
de 9h à 11h. Moi, je vais écouter ça tranquillement. La matinale reprend demain matin, dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.